Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre, 99 francs, Windows on the World, un roman français, vous avez reconnu les livres de Frédéric Becbédé. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son petit dernier. Nous visiterons la bibliothèque de l'académicien Daniel Rondeau à l'Académie française. Sandrine Babu, notre libraire, nous donnera quelques bonnes idées de lecture. Et puis Héloïse Goy fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité, La Voix et Livre, c'est parti, premier chapitre. On avait laissé Frédéric Becbédé avec sa bibliothèque idéale l'année dernière. Le revoilà avec un nouveau roman français. Un roman français, c'était le titre d'un livre autobiographique en 2009. Et ce nouveau livre s'appelle « Un barrage contre l'Atlantique », mais c'est en fait le tome 2, si on veut, d'un roman français. Si vous me suivez, il faut dire qu'il brouille un peu les pistes. Beg, comme il était surnommé à l'école, il place roman dans les titres de ses livres les moins romanesques. Il sera sans doute pas d'accord avec ça, mais on va en parler. Il est là, mais il a eu chaud. Je l'ai invité parce que j'aime beaucoup les romans de Frédéric Becbédé, mais c'est un ingrat et j'ai failli renoncer à l'invitation en lisant ça. Je rêvais qu'un jour, on me poserait des questions fines et subtiles à la radio, tout en sachant à l'avance que cela n'arriverait jamais. Heureusement, je me suis rappelé que lui-même ne s'épargnait pas trop. Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Nicolas.
Ça va?
Pardon,
tranquille?
Je suis désolé. Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait fait des grands moments de radio ensemble.
Ah, quand même. Alors, Un barrage contre l'Atlantique, c'est votre nouveau livre. Le barrage en question est constitué de phrases, logiques pour un roman, mais des phrases isolées les unes des autres. Au début, on pense que ça va s'arrêter. Puis non, ça continue tout le roman, sauf les 15 dernières pages. Pourquoi vous avez choisi cette forme, tout simplement, qui est assez hypnotique à la lecture.
C'est ça. Je pense que les souvenirs remontent par grappes, par bribes, ou par, quelquefois... par phrase, il y a une phrase dans le livre qui dit que mon passé m'envoie des SMS. J'ai voulu peut-être écrire un roman comme si on était dans un grenier désordonné, en train d'essayer de ranger ses affaires. On prend un souvenir, un autre, puis tout d'un coup il y a un paysage, une idée, une colère, et tout ça s'imbrique et finit par faire un récit autobiographique. On voit défiler la vie de quelqu'un, mais c'est quand même le foutoir, notre cerveau. Donc, je vois pas pourquoi les livres devraient être complètement organisés.
Et alors, ça a l'air de rien, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas écrit un roman comme d'habitude, puis ensuite, vous avez juste séparé les phrases. Enfin, je pense pas.
Non.
Et à la fois, ça donne quand même quelque chose de linéaire, quelque chose qui se suit, une histoire, enfin, en tout cas, ou des souvenirs.
Oui.
Mais
J'espère.
C'est technique, c'est ce que je veux dire.
Oui, en fait, d'abord, je n'ai pas fait exprès. J'ai commencé par prendre des notes, et c'était que des phrases, une par jour, pendant le premier confinement, où la planète était à l'arrêt. Et puis les phrases ont commencé à se connecter entre elles et à former des souvenirs. Mais c'est un processus assez mystérieux, en réalité pas tellement calculé. Simplement, je suis préoccupé par le fait que les jeunes ne lisent plus de livres, et notamment pas de livres trop compacts, avec des phrases trop denses et des pages trop noires qui font peur. Alors que les jeunes lisent toute la journée des tweets, des SMS, des textos et tout ça. Donc, je me disais, peut-être ça pourrait être un moyen de moderniser la forme du roman. Et je ne suis pas le premier à chercher des solutions. Y a des tas de romanciers que j'aime qui ont fait des fragments. En tout cas, ça a marché sur ma fille parce qu'elle a 22 ans et elle l'a lu en une journée. Et c'était jamais arrivé, hein. J'espère qu'elle ne nous entend pas, Chloé.
Mais est-ce qu'elle espère que vous parliez d'elle quand elle lit vos romans? Ou est-ce qu'elle en a peur?
Non, là, elle a trouvé le passage sur elle, je pense, lui a plu. Mais c'est vrai qu'elle en a ras-le-bol que je parle d'elle. C'est vrai qu'elle me demande toujours d'arrêter. J'arrive pas à m'en empêcher. C'est embêtant.
Et puis alors, c'est pratique parce que vous êtes aussi un fou des citations ou des exergues. Et là, en fait, on ouvre une page et on a une citation de Becbédé... Tout emballé, quoi.
Ah, c'est gentil.
Mais c'est quoi ce rapport aux citations? Vous aimez ça, je le sais.
Oui, bien sûr.
Ça résume toute
non, en
une
fait,
pensée.
En gros, si je voulais résumer ma pensée, c'est que je pense que les romanciers oublient un peu trop la forme. Je veux dire, pas Flaubert, mais depuis lui, et je pense beaucoup dans le roman contemporain, il y a beaucoup de livres qui sont des sujets, en fait. Et moi-même, je l'ai fait. Hein. J'ai fait, par exemple, un roman sur le 11 septembre.
Ah oui, mais le 11 septembre, c'était sur la forme, c'était très intéressant.
Il y avait
parce
une forme.
C'était un chapitre au World Trade Center et le chapitre suivant à la Tour Montparnasse.
Oui. Et minute par minute, pendant 102 minutes, c'est-à-dire entre l'entrée de l'avion dans la première tour et, et l'effondrement de la deuxième tour. En fait, c'est que je cherche toujours un artifice formel qui me m'aide à écrire et qui fasse que le livre soit différent de ce qui existe. Mais juste pour dire, les romans, aujourd'hui, on est au 21e siècle, il faut trouver des manières de les transformer. Je ne pense pas qu'on doive écrire toujours des romans classiques du 19e siècle. Quoi. On est au 21e siècle, on est dans un monde totalement incompréhensible. C'est hallucinant ce que nous vivons en ce moment. Et les romans devraient être identiques ? Non.
Ah, c'est intéressant.
Je pense que notre rôle à nous, les écrivains, c'est de penser aux phrases. C'est quand même d'écrire des phrases qui vont nous sauver, qui vont nous représenter, qui vont nous toucher. Et donc, je voulais revenir à la source de mon boulot, tout simplement. Écrire une phrase, voilà, et puis une autre, et puis éventuellement une troisième. Jusqu'à ce que je trouve la phrase qui disent exactement ce que je veux dire, et c'est la dernière du livre.
En matière de forme, elle se posait là aussi, c'est Marguerite Duras, il y a une référence directe. Votre livre, c'est donc un barrage contre l'Atlantique, et Marguerite Duras, c'était un barrage contre le Pacifique, qui est au fond l'histoire de la vanité des hommes à vouloir domestiquer la nature.
Exactement, c'était en 1950 un récit autobiographique où elle parlait de sa mère, Marie, qui a voulu cultiver du riz dans ce qui est aujourd'hui le Cambodge, mais qui à l'époque s'appelait la France. C'est assez bizarre. Et donc, symboliquement, il y avait quelque chose peut-être d'impossible dans l'idée de coloniser un pays, mais la métaphore de Duras, c'est l'impossibilité de cultiver du riz au bord du Pacifique. L'eau salée inonde la rizière et rend le terrain incultivable. J'ai trouvé que ce titre était tellement magnifique que je lui ai volé pour raconter une histoire qui est aussi une métaphore de notre condition actuelle.
On va y venir tout de suite à cette métaphore. Il y a aussi beaucoup de vous dans ce livre, c'est à la fois autobiographique, des souvenirs, vrais ou pas, peu importe. On en parlera aussi parce qu'il y a toute une réflexion sur ce que c'est que la vérité. Et puis il y a ce type qui s'appelle Benoît Barterotte et qui essaye réellement de construire une digue contre l'Atlantique. À tout de suite.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Frédéric Becbédé pour un barrage contre l'Atlantique chez Grasset, qui raconte Frédéric Becbédé, comme un peu toujours dans ses romans, mais qui raconte aussi une histoire assez incroyable d'un type qui s'appelle Benoît Barterotte. On est au Cap Ferret, c'est là où vous avez écrit le livre Frédéric Becbédé. Et moi, en le lisant, je ne connaissais pas ce type. Je ne connais pas la région, en fait.
Oui.
Je connais très mal. Et j'ai fait une chronique la semaine dernière pour parler de votre livre en disant c'est aussi un roman sur l'histoire un peu folle d'un type qui essaye de créer une digue pour protéger son terrain au Cap Ferret. Et en fait, j'ai eu des messages sur Twitter qui me reprochaient de ne pas m'être renseigné.
Mais il existe.
Il est très connu même.
C'est une figure locale, oui. C'est pas une célébrité nationale.
J'ai googlisé un peu.
Mais il le mérite. Parce que c'est quelqu'un d'assez romanesque. En fait, bon, moi je l'ai croisé il y a 20 ans et son histoire me fascine parce que c'est un des premiers à avoir une intuition de ce qui est aujourd'hui notre condition humaine. C'est-à-dire qu'on... la nature se venge de nos dégâts, elle nous menace, elle veut nous submerger. Et lui, il avait dès 1985 défendu son terrain. Il est à l'extrême pointe sud du Cap Ferret, et c'est un endroit entre l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon où il y a des courants très très puissants qui étaient en train de faire reculer sa propriété. Donc je crois qu'il perdait 80 mètres par an. Et oui, enfin, il a commencé à jeter des rochers dans l'océan, un peu comme Sisyphe, quoi. Il y a un côté démiurgique, il y a un côté donquichotesque dans son projet, mais malgré tout, ça tient. Depuis 1985, son terrain ne recule plus et tous les jours, il verse de la pierre pour arriver à vaincre ce qui est l'océan Atlantique. Bon, d'abord, c'est un paysage très beau, l'endroit est assez magnifique. Lui est très haut en couleur, quelqu'un qui est très spectaculaire. Un barbu, voilà, il a une barbe blanche, il est très littéraire, il est très cultivé, il connaît bien l'histoire de cette région. Et puis en plus, il est marrant, il aime la vie et c'est un peu un aventurier. Les gens là-bas l'aiment bien ou le détestent. Il y a toutes sortes de légendes sur son compte. Et donc moi, je me suis dit, mon boulot c'est romancier, je rencontre un personnage de roman, il faut qu'il soit dans mon livre.
Il a lu le livre ?
Oui, il a lu le livre, oui. Oui, pour l'instant, il ne m'a pas cassé la gueule. Voilà. Donc ça, je pense que pour l'instant, ça va.
Parce qu'une fois qu'on sait qu'il existe, on se dit, bah, dis donc, oui. Il va l'engueuler, Frédéric.
Oui, c'est vrai que...
Non, mais je n'ai pas tendre avec lui, mais il est, lui, intransigeant.
Oui, puis je n'ai pas eu envie de... Non, je n'ai pas passé sous silence les aspects inquiétants ou brutaux de cet homme. C'est un homme qui, quand même, a eu un projet complètement dingue de défendre la France, une partie de la France, alors que l'État français ne le faisait pas, quoi. Donc il l'a fait en toute illégalité. Et aujourd'hui, l'État reconnaît l'importance de ce qu'il a fait. Mais il faut bien comprendre que les écolos ont raison de se battre pour dire qu'il faut réduire les émissions de carbone, parce que sinon, le pôle Nord va fondre et l'océan va monter. Mais imaginons qu'on n'y arrive pas. Imaginons qu'on n'arrive pas à contrôler le changement climatique et que vraiment l'océan monte de 2 mètres d'ici 15-20 ans. Ça aura été un des seuls à faire le travail qu'il va falloir faire, parce que la France, c'est 5800 km de côte et personne n'est en train d'organiser cette défense. Lui, il l'a fait, voilà.
Mais il y a un paradoxe qui est assez intéressant, c'est que lui, il aime la nature, plutôt il la vénère, très respectueux de la nature, mais il y a quand même une sorte de paradoxe à lutter contre.
Oui, alors justement, lui, il ne dit pas contre, il dit avec. Il dit, c'est comme les navigateurs qui avancent contre le sens du vent. Je ne suis pas un grand technicien de la navigation, mais on appelle ça avoir un bateau ardent qui arrive à remonter le courant du vent en traçant des bordées. Bref. Il m'a expliqué ça, j'ai retranscrit dans le livre mieux que je ne vous l'explique là. En tout cas, l'idée que la nature n'est pas notre ennemi, qu'on peut, tout en respectant les règles de la nature, la contourner ou la contrôler, ça a toujours existé. Les Hollandais, au XIIe siècle, ils ont construit des digues pour protéger leurs Pays-Bas.
Il vous fait penser, ce Benoît, au lieutenant Drogo du désert des Tartares.
Oui, parce que quand il est debout sur sa grande digue, c'est quand même la plus grande digue privée en Europe. C'est un ouvrage qui fait 400 mètres de long, 40 mètres de profondeur. Enfin, c'est complètement fou. Et il est debout là-dessus, sur cet amas de cailloux.
Et il attend.
Et il attend de savoir, non pas si l'armée ennemie va attaquer, mais si ça va tenir.
C'est ça ce qui est génial dans Le désert des Tartares, c'est que c'est un roman pendant lequel il y a un type qui attend et qui s'ennuie en fait.
Oui.
Lui, il ne s'ennuie pas et vous ne vous ennuyez pas, vous racontez votre vie depuis votre enfance en fait. Et on a l'impression que finalement, vous cherchez l'ennui depuis toujours et que vous commencez doucement à le trouver.
Ou à l'aimer, c'est ça plutôt. Le problème. Il faut être heureux de s'emmerder dans la vie, parce que c'est ça le bonheur en fait. Sinon, on fuit, on court, on s'occupe, on se distrait. Mais le problème,
c'est qu'on n'a rien à raconter quand on s'ennuie. Alors que vous, en fait, vous profitez de toutes ces années sans ennui pour raconter aujourd'hui en vous ennuyant
peut-être
un peu.
Peut-être c'est ça, oui. C'était peut-être une vie en deux phases. Une frénésie totale pour avoir quelque chose à raconter aujourd'hui. Mais je ne crois pas que les passages de description soient ennuyeux dans les livres que j'aime, ni dans celui-ci.
Pas du tout.
J'espère. Non, parce que c'est un...
Mais justement, un livre assez qui finit dans la contemplation. Quand vous cherchez l'ennui, en fait, vous nous racontez toutes vos péripéties depuis toujours.
Oui.
On s'ennuie pas du tout.
Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est un apaisement, une sorte d'accalmie. C'est aussi qu'à l'époque où j'ai écrit le livre, tout était fermé. Ni resto, ni bar, ni boîte, ni cinéma, ni théâtre, et rien. Donc c'était comme si on n'avait pas d'autre choix que de contempler.
Ça vous travaille, hein. Le Covid, le confinement.
Bah oui, je sais pas.
Vous voyez
pour vous,
pas ça comme une parenthèse, quoi. Ah non, je me dis, je serre les dents et puis ça va passer.
Non, je crois que malheureusement, non, ça va pas
pour
passer.
Pour vous, c'est une bascule.
Oui, oui, c'est anthropologique. C'est que nous, en tant qu'espèce, nous n'acceptons plus la moindre menace. Et donc, nous demandons à nos gouvernements, quels qu'ils soient, dans des dictatures ou dans des démocraties, c'est pareil, on leur demande de nous protéger.
Et donc, créer des digues.
Oui, donc en fait, on demande une digue et on renonce à la liberté. Moi, j'ai connu une enfance et une adolescence dans un monde presque trop libre. Et j'ai du mal à accepter de vivre maintenant dans un monde pas assez libre.
À moins que ce soit une question de point de vue et d'âge
oui,
auquel
peut-être.
On observe l'époque.
Mais
on
va en parler
dans un instant, parce que votre enfance, je ne connaissais pas, mais on ne va pas s'ennuyer. À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
La voix est libre, toujours avec Frédéric Becbédé, pour Le barrage contre l'Atlantique chez Grasset. C'est son nouveau livre ou roman. On va en parler, mais juste avant, je voudrais qu'on parle un peu de votre enfance, ce que vous racontez, une enfance de bourgeois, dans un milieu très aisé, mais dans une école où ça rigolait pas.
Ah non, oui.
C'est dur même.
Bah, c'est très surprenant de se dire que dans les années 70, dans les années 70, les parents se libéraient, mais les enfants restaient quand même encore dans un monde ancien, hein. Et pour se libérer, les parents confiaient leurs enfants soit à des pensionnats, soit à des écoles violentes, quoi. Et j'ai été tabassé par un directeur d'école, un prêtre. Et oui, quand j'ai entendu...
Avec le pantalon sur les chevilles, en plus.
Oui.
À l'ancienne.
Oui, quand j'ai entendu le rapport Sauvé, qui dit qu'il y a environ 200 000 Français... qui ont été maltraités par des curés, eh bien, je suis membre du club. Mmh. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas été violé, mais ils m'ont tapé dessus. Et quand j'ai entendu ça à la radio, j'ai dû me garer tellement j'ai été bouleversé. C'est quelque chose... quand j'ai raconté ce souvenir dans le livre, bon, j'ai un peu envoyé mon livre à quelques personnes, et j'étais très surpris, j'ai eu deux retours de camarades de classe qui avaient subi la même chose à l'école Bossuet. Et c'était en 60...
C'était en oui, 60, c'est ça, on n'est pas dans les années
75,
50, quoi.
74, 75. C'est fou, quoi. C'était...
Et sauf erreur, vous aviez jamais parlé de ça dans un autre de vos
livres ? Non, c'est un souvenir qui m'est revenu récemment, en fait. Et c'est parce qu'on a beaucoup parlé des années 70 récemment, et il y a eu des très bons livres qui ont révélé... Les excès de ce libertarisme de l'époque. Mais il y avait aussi encore des enfants qui n'étaient pas dans cette liberté du tout. Mmh. Là, je suis en train de lire le livre de Fabrice Guéniaud, La vie la plus douce. Il était dans un pensionnat super dur, super violent. Et c'était aussi dans cette période-là. Donc il y a une... C'est une période de contradiction.
Oui, parce que justement, je ne suis pas en train de dire que vous décrivez une enfance malheureuse, pas du tout. Il y a même une nostalgie un peu delermienne. Je vais citer un extrait. On suivait la course d'une goutte d'eau sur la vitre de la voiture, on inventait des scénarios de science-fiction ou des histoires de tyrannosaures, on suçait des sucettes pierrot gourmand jusqu'à se couper la langue avec la pointe devenue tranche comme une piqûre, on se fixait des buts comme d'enlever tout le chocolat des fingers avec sa langue sans casser le biscuit, les stations-service s'appelaient Mobile ou Antar, elles offraient des cadeaux quand on collait des autocollants sur un carton, on gagnait une tasse, un ballon ou une assiette en plastique en guise de récompense pour avoir brûlé du pétrole. Vous vous défendez d'être nostalgique souvent, mais alors là... plonger dedans complètement. On nage avec vous, et avec douceur d'ailleurs, dans une forme d'immense nostalgie.
Oui, il y a les deux. Il y a un ami qui s'appelle Frédéric Schifter qui dit que les nostalgiques sont des naïfs utopistes du passé. Et je crois qu'il faut faire attention à ne pas être un utopiste de son passé.
D'idéaliser, quoi.
Mais, donc j'essaie de mettre les deux. Il y a les mauvais souvenirs aussi. Mais bien sûr que quand il y a des souvenirs merveilleux ou des petits détails comme ça qui émeuvent, c'est très important, j'adore ça. J'espère que ce livre, il est simplement honnête, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Je ne suis pas une victime traumatisée, mais je ne suis pas non plus
vous
en extase devant mon passé.
Vous dites transparent, hyper transparent.
Oui.
Alors que la transparence, vous la reprochez aussi un peu à l'époque moderne.
Oui, enfin, je suis pas sur les réseaux sociaux, si c'est ça que vous voulez dire.
Non, mais peu importe.
Oui. Non, mais en fait, moi, j'ai rien contre. Je préfère exhiber ma vie dans un livre bien contrôlé, bien ciselé, où chaque virgule est à sa place. Vous voyez, à la recherche de phrases qui définiront mon existence comme des briques. J'essaie de construire ma digue à moi.
Pas comme ça, jeté à la figure, comme un type qui sortirait d'un placard tout nu, par exemple.
Disons que je... oui,
c'est assez drôle. Dans le livre, je laisse le teasing.
Oui, oui. Oui. Ben, non, c'est que c'est ça, la littérature, c'est une manière de... Ben, c'est pas un tweet, je suis désolé, c'est un peu plus long qu'un post. C'est plus travaillé, j'imagine.
Et alors, je pensais, en vous lisant, il est question parfois de votre enfance, plutôt heureuse quand même, et puis de la science-fiction qui vous accompagnait tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas de livre de science-fiction, de roman de science-fiction, de Beck BD.
Oui.
Comment ça se fait?
C'est très bizarre parce que je suis un fanatique de ce genre. Ça me paraît très difficile. La science-fiction exige de mêler une connaissance scientifique forte avec une imagination délirante. Et je ne suis pas un grand imaginatif, comme je le prouve encore, avec un livre là qui est un récit complètement intime. Et je ne suis pas non plus super bon en science. Le seul livre...
Une vie sans fin.
Voilà. J'allais y venir, si jamais on se demande ce que pourrait donner un livre de moi de science-fiction, ça serait ça, parce qu'à la fin, on basculait... On commençait par des connaissances scientifiques, puis on basculait dans des fantasmes et des délires transhumanistes à la fin du livre.
C'était une enquête chez les scientifiques pour savoir si, oui ou non, on pouvait éventuellement peut-être devenir immortel.
Voilà, exactement. Sur la fin de la mort, ce qui est drôle, c'est que j'ai publié ce livre en 2018 et juste après, il y a eu le Covid qui nous a calmés sur ce fantasme.
Alors, en revanche, vous allez vraiment contre toutes les théories de développement personnel, c'est-à-dire que vous ne profitez pas du moment présent. Vous êtes quand même vachement tourné vers le passé en ce moment, depuis quelques livres d'ailleurs.
Bon, le présent est quand même fortement handicapé en ce moment. Hein, je ne vous apprends rien. Quant à l'avenir, on ne sait même pas s'il y en aura un. Donc, c'est pas un choix de se réfugier dans le passé. C'est qu'il n'y a que le passé en ce moment d'intéressant. C'est le seul endroit où on peut vivre.
Est-ce que vous ne seriez pas quand même en train de lutter ainsi comme une barque à contre-courant, refoulée sans fin vers votre passé.
Ça, c'est une belle phrase. C'est la dernière phrase de Gatsby le Magnifique. Ça me fait infiniment plaisir de l'entendre. Oui, peut-être, c'est pas faux. Et il y a aussi cette lumière verte de l'autre côté du bassin d'Arcachon qui est...
Ah oui, comme le phare.
La dune du Pilat. Là, nous sommes en train d'échanger des citations de Gatsby. Nous nous prenons pour Scott Fitzgerald. Et
ouais,
ça manque
cas.
Un tout petit peu de champagne.
C'est un peu votre cas, non ? Scott, c'est vraiment votre mentor.
Oui, parce
littéraire.
Que je ne me prends pas pour lui, mais,
non, non.
Mais je l'admire infiniment pour ça, son charme, sa fêlure.
Mais enfin,
sa
il résume tout dans cette phrase-là, de toute son œuvre et un peu de la vôtre aussi, enfin en tout cas de votre état d'esprit du moment, c'est qu'on passe notre temps
à lutter
contre notre passé.
Oui, à lutter. On essaie d'avancer et en réalité, une autre manière de dire la chose, c'est Françoise Sagan qui a dit... Je me demande ce que le passé me réserve.
Ah oui.
Ben c'est comme ça, bien sûr. Mais je dirais, même sur un plan politique, il y a beaucoup de réactionnaires qui veulent revenir dans le passé hein, en ce moment. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du passé. Et il ne faut pas vouloir le corriger. Et il faut se dire, même d'un point de vue écologique, ce que nous voulons sauver,
c'est ce qui est.
C'est ce qui a été, c'est cette nature. Donc...
Mais est-ce que vous avez peur de basculer réactionnaire, c'est ça aussi ?
Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que le passé... dire que c'était mieux avant, c'est bête, parce qu'il y avait des choses moins bien avant. En revanche, aimer le passé, vouloir défendre le passé, ça n'est pas réactionnaire. C'est même pas de droite.
Dernière question. Vous écrivez ce roman, enfin, c'est ce que vous nous dites, au Cap Ferret, tout seul dans une cabane. C'est souvent que vous pouvez écrire comme ça ? Vous avez l'air de découvrir un monde, une solitude impossible, mais quand même ce qui s'en rapproche le plus, et vous aimez ça, quoi.
Là, j'ai eu la chance d'être viré de chez moi par mon épouse, qui en avait ras-le-bol que je tourne en rond, sans arriver à avancer sur ce livre, et qui m'a dit « fiche le camp ». Et donc, je me suis enfermé chez cet ami Barthérot, qui a eu la gentillesse et l'hospitalité de m'accueillir alors que c'était interdit. Hein, ah. On n'avait pas le droit hein, de, ah, de oui. se déplacer. J'ai désobéi à la loi et je suis en train de le dire à la radio.
C'est idiot.
Oups.
Un barrage contre l'Atlantique. Restez avec nous, Frédéric Becbédé. Nous partons à l'Académie française dans un instant.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
La Voix est libre, le retour, toujours avec Frédéric Becbédé. Visite de bibliothèque maintenant, et pas n'importe laquelle, direction l'Académie française avec l'académicien Daniel Rondeau. Il publie Arrière-pays chez Grasset, dans l'Aube, du côté de Troyes. Un chauffeur routier polonais est retrouvé assassiné, une journaliste enquête, et nous, on visite, au-delà de l'intrigue, un territoire beau et trop oublié. J'ai profité de la parution du livre pour voir de quel livre Daniel Rondeau se chauffe, et faire un tour à l'Académie française. Bonjour Daniel Rondeau.
Bonjour.
Merci de nous recevoir à l'Académie française, dans la bibliothèque de l'Institut, qui est magnifique. Là, on est passé dans des salles absolument fabuleuses. Là, il y a un petit escabeau à l'ancienne.
Ça vous fait rêver.
Ah, j'adore ça, j'aimerais beaucoup avoir ça. D'ailleurs, je vais y grimper. Non, bah, je me permets, hein, il ne va pas s'écrouler. Il...
Ah, vous prenez peut-être des risques, mais...
Ah, on peut monter à 3 mètres de haut et il faut bien ça pour aller chercher les livres qui sont tout en haut, oui. Quand même. Bon, magnifique. On n'est pas chez vous, mais vous m'avez dit que vous aviez 20 000 livres, sauf que vous habitez un peu loin de Paris. Donc, on s'est retrouvés là, mais vous avez quand même emmené quelques-uns de vos livres. Mais si vous pouvez nous décrire un peu votre bibliothèque.
Si vous voulez, moi, j'ai quitté Paris il y a plus de 20 ans pour écrire. J'étais lancé dans l'écriture d'un grand roman qui s'appelait « Dans la marche du temps ». Et j'ai mesuré, en commençant à travailler à Paris, que l'ambition du livre était plus forte que ce que j'avais imaginé. Que si je voulais aller au bout, il fallait que je prenne des mesures. J'ai pris des mesures radicales. J'ai quitté Paris. J'ai acheté une petite ferme ancienne, enfin, qui avait été fondée justement, qui était la ferme d'un couvent.
D'accord.
Qui a été démoli 10 fois. Bon, parce que en Champagne, nous sommes sur la route des invasions. Donc, les destructions ont été nombreuses. Et c'est une petite ferme, mais Et donc, j'ai des livres partout.
Et ils sont classés ?
Ah, bien sûr.
Bah bien sûr, c'est pas une évidence. Hein. Moi, dans toutes les visites de bibliothèque que je fais, c'est rare que les livres soient classés.
Il faut que je sache où sont les. Il faut toujours savoir où sont les livres.
En alphabétique ?
Non, non.
Alors, genre ?
Littérature française, au rez-de-chaussée, en bas dans le salon. Dans cette même pièce, il y a aussi les livres avec envoi des gens que les écrivains que j'aime.
Dédicace, oui.
J'ai aussi.
C'est quoi votre chef, votre pièce maîtresse, la dédicace, l'envoi le plus prestigieux ?
Peut-être que celui que j'aime le plus aujourd'hui, c'est un envoi de Milan Kundera.
Ah oui.
Et qui me dit simplement, mélancoliquement.
Vous avez repris l'idée pour quand vous signez des livres ou pas ?
Non, bah, non,
c'est pas mal.
Non, parce que c'est vraiment un message personnel. On reparlera peut-être de Milan tout à l'heure, mais je l'ai bien connu quand il est arrivé en France. On se voyait souvent et puis on s'est perdu de vue et il m'a envoyé ce message personnel pour dire, et depuis on s'est retrouvés.
Alors, vous avez apporté quelques livres, je disais, et on va peut-être commencer avec le maître, Albert Camus, Le Premier Homme, une vieille édition de chez Gallimard.
Bah non, mais c'est pas très vieille, c'est 94.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est pas très vieille. Je pensais qu'elle était plutôt d'époque.
Bah oui, elle est d'époque.
Oui, mais, ah bon, c'était la première édition, en 94, 30 ans après la mort de Camus.
Exactement.
Ah oui.
Vous connaissez pas l'histoire?
Ah bah racontez-nous.
Alors,
racontez-nous.
Je vous la raconte. Le 4 janvier 1960, Camus est dans la voiture de Michel Gallimard avec la femme de Michel Gallimard et leur fille et leur chien. C'est une facette Vega. Ils sont partis de Lourmarin la veille. C'est là qu'habite Albert Camus. Et ils vont à Paris. Ils ont fait étape la veille au soir pour fêter l'anniversaire de la fille de Michel Gallimard. Et la Facel Vega, brusquement, le conducteur perd le contrôle de la voiture et va dans un arbre, la voiture explose. Camus est tué. Michel Gallimard est très, très blessé. Anne Gallimard est indemne. Leur fille aussi, mais très sonnée. Et dans les décombres de la voiture, on trouve le manuscrit. d'un roman. Ce roman, le titre, c'est Le Premier Homme. Ce sont des l'écriture de Camus en patte de mouche. Hein, de, et Francine Camus, la femme d'Albert Camus, va déchiffrer ce manuscrit, le mettre en forme. Et la fille de Camus, Catherine, en 1994, va le publier chez Gallimard.
Mais pourquoi si tard?
Parce qu'il a fallu du temps pour mettre le manuscrit. Je ne sais pas si vous connaissez l'écriture de
ouais, Camus. Enfin, 33 ans quand même.
Oui, mais bon, et puis bon, voilà, il y a eu d'autres choses à gérer, je ne sais pas. Mais, et puis, peut-être qu'ils se le gardaient comme un trésor personnel. Et qu'ils attendaient le bon moment, un moment propice, vous savez. En tout cas, en 94, le livre paraît. Et bon, c'est, moi, j'ai toujours aimé Camus, c'est un de mes premiers auteurs. Ce livre-là, 1994, quand je le lis, j'ai un choc. J'ai un choc parce que c'est un livre, c'est l'histoire d'un homme qui retourne en Algérie sur les traces de son père, en fait. Il va rechercher les traces de son propre père et les traces de sa famille. Bon. Et c'est un livre sur la vie des gens pauvres, des gens simples, des gens qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'arbre généalogique, qui n'ont pas de photos de famille, qui n'ont pas de souvenirs personnels. Chez ces gens très simples... les choses elles-mêmes n'ont pas de nom très précis. On ne dit pas c'est une assiette de Quimper, on dit c'est une assiette creuse. Tu me prends un pot, on ne dit pas c'est un pot engrais. Donc, il y a une description de cette humanité pauvre qui est absolument extraordinaire. Et ce sont des gens où le silence, ce sont des gens qui pratiquent le silence, qui ne s'expriment pas. Leur mémoire est enténébrée. Le temps, les repères dans le temps sont toujours très flous parce que, comme le dit Camus, pour eux, le temps ne pose que de vagues repères sur le chemin qui les conduit à la mort. Donc c'est un peu l'épopée écrite avec la sueur et le sang des hommes qui s'est perdu dans les sables du front de l'Afrique. Et ce dernier homme, là, ce dernier...
Vous ne l'avez pas épargné, hein? Il y a des notes partout.
Non, il y en a même plus que vous ne croyez, parce que regardez, il y a plusieurs
lectures. Des pages cornées.
Il y a plusieurs lectures.
Vous n'avez aucun scrupule à noter un livre.
Non, j'écris sur tous mes livres. J'écris sur tous mes livres et je sais où sont mes livres et je sais ce qu'il y a dans ce que je vais chercher un jour dans ce livre-là. Donc, parfois, j'ai des surprises. Je trouve des choses supplémentaires.
Même les Pléiades, même les livres anciens.
Bien sûr. Non, les Pléiades, bien sûr.
Mais pas les livres anciens, quand même.
Pas les livres anciens.
Il y a une limite. Allez, il faut qu'on avance, quand même, parce que je voudrais quand même qu'on fasse le tour de tous les livres que vous avez amenés. On reste en Méditerranée.
On reste en Méditerranée avec ce livre d'un Marocain qui s'appelle Mohamed Choukri. C'est un livre qui est paru en poche, au Point Seuil. Mohamed Choukri est un enfant de la... des bas-fonds de Tanger, si vous voulez. Il est né dans une famille très pauvre, avec un père assez barbare, enfin très 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 violent, qui va même égorger le frère de Choukri, le frère de l'auteur, et qui va l'envoyer travailler dès qu'il a 6 ans, dans un café. Il va travailler de 7h du matin à minuit, et il va naturellement connaître très jeune, il dit à 7 ans, je suis un homme. Et il va vivre la vie de tous ces petits enfants des rues qui travaillent et qui en même temps qui boivent, qui fument du kif, qui mangent du majoun. Vous savez ce que c'est le majoun? Ce sont des gâteaux faits avec du kif. Ah. Et qui fréquentent les prostituées.
D'espèces gâteaux, quoi.
Cet enfant qui n'a pas d'enfance, il va être sauvé par l'écriture, par l'école. Il va apprendre à lire. Et à ce moment-là, il est pris d'une sorte de fièvre, de frénésie, de lire. Il se promène et dans les rues, il raconte, c'est très touchant. Donc, si vous voulez, Le Pain Nu, c'est l'histoire d'un de ses enfants, quoi, qui ressemble naturellement à l'auteur. C'est très touchant. Il parle dans les rues et il se promène dans les rues de Tanger. Et en marchant, il lit tout ce qu'il voit, les voyez, les publicités. Bon, il lit toute la journée. Bon, il parle tout seul. C'est un peu comme les boxeurs qui sont dans la rue, vous savez.
Ils s'entraînent avec les mots, quoi.
Ils font les enchaînements. Lui, il s'entraîne avec ses mots. Et il va écrire ce livre qui est absolument magnifique. Qui sera, il va le montrer à Paul Bowles. Paul Bowles, c'était l'écrivain américain qui s'était exilé à Tanger.
Et qui va traduire le livre.
Et que j'ai redécouvert, moi, en 85. Et que je vais publier que Voltaire. Et Paul Bowles va le traduire une première fois en anglais. Et c'est Tahar Ben Jelloun qui va traduire Le Pain Nu en français. Bon, et c'est, si vous voulez, grâce à l'écriture, on voit comment un enfant qui était, à qui le pire était promis va entièrement maîtriser sa condition.
Il a été écrit en quelle année, vous me dites ?
Années 50.
Années 50. Mohamed Choukri.
Mohamed Choukri, Le Pain Nu.
Parfait. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ?
Alors je voudrais vous parler. On reste en Méditerranée, mais on va en Méditerranée orientale.
Très belle édition Gallimard.
C'est un, oui, c'est un livre de Yachar Kemal qui s'appelle Mehmed Le Mince. Alors, je vais vous expliquer un peu qui était Yachar Kemal. Vous ne l'avez jamais lu ?
Jamais.
Bon, alors, vous avez bien fait de venir.
Ah bah oui.
Parce que, c'est, pour moi, c'est un écrivain majeur.
Turc.
Turc, que j'ai beaucoup fréquenté, enfin, beaucoup fréquenté ses livres. Alors, Yachar Kemal, c'est un, il est né dans, un, dans les monts du Taurus. C'est en Turquie orientale, dans un village. Lui, il est dans, c'est un village de Turkmènes, mais lui est un, d'une famille kurde. Ses débuts dans la vie sont assez compliqués. Quand il a 3 ans, son oncle, qui est en train de tuer un bélier pour la fête du sacrifice, va l'éborgner.
Par accident ?
Oui, par accident. Et 2 ans plus tard, son père est assassiné dans un truc de village. À ce moment-là, quand il est éborgné, il devient sourd. Et quand son père meurt, il devient bègue. Et il vit cette vie d'enfant solitaire dans son village, dans sa famille. Donc ce sont des paysans qui sont confrontés à une réalité très, très, très difficile, très dure, avec des conditions climatiques très chaudes en été, la neige en hiver. Yachar Kemal, ce qu'il aime, c'est écouter. Il y a des bardes qui passent de village en village, comme dans toute cette région d'Orient, pour raconter des épopées. Ce sont très souvent des épopées de gens qui ressemblent aux villageois qui viennent les écouter, c'est-à-dire des gens qui meurent et qui, ou qui tuent sans honneur, sans, on ne sait pas. Voilà, c'est la fatalité de la vie qui est là. Et en même temps, n'oublions pas qu'on est au pays d'Homère. Homère n'est pas loin de tout cela.
Aveugle aussi, Homère.
Exactement. Et un jour...
Si Homère a existé.
Si Homère a existé. En tout cas, ces livres sont là. Et un jour, le jeune Yachar Kemal, quand le barde s'arrête, il continue sa chanson. C'est-à-dire, il invente la suite de l'histoire. Il n'est plus bègue et il a volé... Sur les lèvres de l'Aed, le secret des mots. Et à partir de ce moment-là, dans son village, il va se mettre à raconter et à inventer des histoires, des épopées. Et on l'appelle Kemal le Fou, parce qu'il va de maison en maison, les gens lui donnent un peu d'argent et il raconte tout ça.
Il est toujours sourd.
Oui, sa surdité c'est estompée. Et puis ensuite, il s'est intéressé à la Méditerranée. Il a passé 20 ans près de la mer. Il vivait avec les pêcheurs. Donc,
Et alors, Mehmed Le Mince ?
Alors, Mehmed Le Mince, c'est une épopée qui se passe dans un village de cette région où les hommes se battent entre eux, meurent. Il y a un chef de village qu'on appelle Laga, qui est un despote local. Donc, les héros vont chercher un peu la liberté. Leur combat sera celui de la liberté. Mmh. Et c'est un livre que je trouve hors du commun.
Alors, Il faut qu'on termine, malheureusement, mais vous vouliez absolument nous parler de Milan Kundera. Mais
bon, alors, on termine. En fait, on termine parce que j'ai parlé beaucoup de la Méditerranée. Avec Camus, on parle de la Méditerranée des deux côtés, puisqu'il parle de l'Algérie, de la France, de l'Europe. Et d'ailleurs, Camus parlait de l'Europe dans l'un de ses derniers articles. Il écrivait dans l'Express, c'est un de ses articles, où il se détourne un peu de l'actualité, de la viande froide de l'actualité. Il dit c'est une viande sournoise, l'actualité. Et il essaie, il retrouve justement, il repense à cette Europe qui est pour lui d'abord l'Europe de la culture. Et il parle de dit l'Europe, en fait, c'est le continent de la divine création. Or, en fait, je veux citer même, si on fait rapidement, ce petit livre de Milan Kundera qui vient d'être édité par Gallimard et par Le Débat, où il y a deux textes. Il y a un premier texte très court qui est un texte inédit, qui est un discours qu'il avait fait aux écrivains tchèques, où il y a une, je trouve qu'il y a une définition absolument extraordinaire de qu'est-ce qu'un vandale. Bon, il dit les vandales ne sont pas toujours ce que l'on croit.
Vous avez des très jolies lunettes, très fines, ovales.
Deux textes. Un texte qui s'adresse aux écrivains tchèques, c'est un texte de 67. Où il se pose la question d'un vandale. Il dit, qu'est-ce qu'un vandale ? Non, ce n'est point le paysan analphabète qui, dans un accès de colère, met le feu à la maison du riche propriétaire terrien. Les vandales que je croise, moi, sont tous lettrés, contents d'eux-mêmes, jouissent d'une assez bonne position sociale et n'ont pas spécialement de ressentiment envers quiconque. Le vandale, c'est la fière étroitesse d'esprit qui se suffit à elle-même et prête à tout moment à réclamer ses droits. Fin de la citation. Et je passe à l'autre texte, qui est un texte donc, qui avait été publié plus tard dans la revue Le Débat, et qui est un texte de méditation sur l'Europe. Milan Kundera a toujours été hanté par la disparition de l'Europe qui nous a tous nourris. Il a souvent cité la conférence de Husserl sur la disparition de l'Europe. Et en fait, dans ce texte, très précisément, il repose quelques bases essentielles pour dire qu'est-ce que notre Europe. Notre Europe, c'est d'abord une civilisation spirituelle, c'est une culture, ce sont des écrivains, ce sont des musiciens, il aime beaucoup la musique, ce sont des artistes, ce sont des cinéastes. Et toute cette Europe, aujourd'hui, il parle. C'est un texte qui parle, qui date, je crois, de 84. Est en train de disparaître dans les petites nations de l'Europe centrale. Or, pourquoi je parle de ce texte-là ? C'est parce que la question que se posait Milan Kundera pour les petites nations d'Europe centrale, je pense qu'elle est entièrement d'actualité pour toutes les nations de l'Europe aujourd'hui. Il est normal de se poser la question de savoir si nous allons ou pas disparaître. Si notre culture disparaît, c'est nous qui disparaissent. Et je trouve que c'est un texte extraordinaire, très laconique, très court, très bref, très incisif. Je conseille la lecture à tout le monde.
Il écrivait en français, Milan Kundera ?
Non, il écrivait en tchèque, il était traduit. Et ensuite, voilà. Il a repris ses propres traductions.
Voilà. Et il y a des écrivains comme ça qui écrivent en français, mais ce n'est pas leur langue maternelle. Oui. Je pense à Miguel Bonnefoy, qui est vénézuélien. Ouais, ouais. Je pense à Dimitri Bortnikov, qui est russe, ouais. Et qui écrivent en français. Ouais. C'est assez émouvant, ça.
Ah ben c'est extraordinaire, bien sûr. Bien sûr.
Et à la fois, si un Français écrivait en anglais...
Non, mais comme je vous l'ai dit, je pense que le français n'appartient pas aux Français. Il appartient à tous ceux qui l'aiment. Et le français, pour ces gens-là, c'est la langue d'une littérature. Et cette littérature, cette langue, elle parle au monde entier.
Merci beaucoup, Daniel Rondeau.
C'est moi qui vous remercie.
Merci pour cette visite. Et la prochaine fois, on
vient... La prochaine fois, en champagne.
Voilà, voir les 20 000 livres. Merci beaucoup.
De retour en studio, Arrière-Pays, c'est le titre du nouveau roman de Daniel Rondeau chez Grasset. Frédéric Becbédé, je ne vous demande pas comment est rangée votre bibliothèque. Je l'ai fait la dernière fois que vous êtes venu. Je vous demanderai un mot sur les libraires cette fois. C'est dans un instant.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Frédéric Becbédé pour un barrage contre l'Atlantique chez Grasset et nous partons chez notre libraire Sandrine Babu à la librairie L'Instant pour quelques bons conseils. Bonjour Sandrine.
Bonjour Nicolas.
Alors, le défi, nous parler de 3 livres en 4 minutes 30. Je vous écoute, on commence par quoi ?
Aïe. Alors, donc, on commence par un livre qui s'appelle « Les méduses n'ont pas d'oreilles » de Adèle Rosenfeld, c'est chez Grasset. Ce livre, c'est l'histoire d'une narratrice qui s'appelle Louise, qui est malentendante et qui nous fait partager ses émotions, ses sensations et comment elle voit le monde, comment elle l'entend avec ce handicap. Et donc, il se trouve que sa surdité est en train de s'aggraver. Donc, ça engage des changements pour elle. Et donc, elle a une façon de nous faire ressentir son quotidien, de jouer avec les mots. Elle fait un herbier sonore. Quand elle écoute les gens, elle dit à un moment, c'est assez drôle parce qu'elle dit qu'elle a l'impression de jouer au jeu du pendu pour reconnaître les sons. Et donc, elle a cette capacité de nous faire vivre son quotidien. C'est drôle, c'est touchant. Très beau livre.
Les méduses n'ont pas d'oreilles, chez Grasset. Adèle Rosenfeld, qui est sourde elle-même ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Et c'est un premier roman.
Magnifique. Ensuite, rien à voir, c'est le retour d'Alexis Génie, mais le livre est sorti il y a quelques temps déjà, et avec le titre qui est incroyable, « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond ».
Voilà, donc ça c'est chez Paulsen. Alors là, on a le plaisir à la fois d'une biographie donc de John Muir, qui n'est pas très connu en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, qui est un de ceux qui ont fait protéger les parcs nationaux comme Yosemite. Et donc, et le plaisir d'avoir la plume d'Alexis Génie, alors lui qui est complètement tombé en admiration, même en amour devant ce personnage. John Muir, il naît en Écosse, il a une vie assez incroyable, il naît en Écosse, après il émigre aux États-Unis. Il va se former tout seul, créer des machines, devenir botaniste, il va parcourir à pied, donc c'est un écrivain voyageur. Alors moi je ne voyage pas beaucoup, mais avec lui j'ai vraiment carrément voyagé. Donc voilà, un destin à découvrir dans ce livre, et c'est quand même un des pères, en tout cas, sinon de l'écologie, mais ça se disait pas trop à l'époque, mais de la préservation de l'environnement. Donc un livre vraiment absolument passionnant.
La couverture est magnifique avec des sapins là sur un paysage avec une rivière, un paysage enneigé et tout ça. Il y a un côté Jack London dans la manière dont il raconte.
Oui, c'est vraiment de l'aventure. Alors lui, il faisait des expéditions 1500 km à pied en mangeant que du pain. Il escalade les montagnes au péril de sa vie. C'est un personnage très atypique qui, dans les paysages, voyait ce côté spirituel, nature. Voilà, donc ça fait vraiment un écho à notre société d'aujourd'hui.
Pourquoi j'aurais pu devenir millionnaire ?
Alors c'est lui qui le dit, hein, c'est pas Alexis Génie, hein, donc c'est John Muir, parce qu'il a choisi d'être vagabond. Et comme il avait, on sent, des compétences techniques, il aurait pu être ingénieur. Et il a choisi d'aller découvrir la nature.
Ingénieur millionnaire, c'était pas gagné non plus. Il y a un troisième dont vous vouliez nous parler rapidement, c'est celui du camarade Philippe Besson chez Julliard, qui s'appelle Paris-Briançon et dont on parle pas mal en cette rentrée d'hiver.
C'est vrai que j'avais envie d'en parler aussi. Philippe Besson, on l'a déjà accueilli ici, c'était une super soirée. Et ce livre, vraiment, c'est un bon cru. C'est un train de nuit, des voyageurs qui se croisent, des destinées, des gens qui n'auraient jamais dû se croiser, qui vont échanger. C'est touchant, il y a du suspense. Et il nous fait surtout ressentir la fragilité de nos vies et combien c'est important qu'on se relie entre nous, qu'on communique, qu'on échange. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. On le prend, on le lit jusqu'au bout. Hein. On n'a pas envie de s'arrêter.
C'est un livre court, en plus, ça fait moins de 200 pages. Ça.
Ouais, c'est ça. Il fait 190 pages.
Vous avez vu l'œil un peu ?
Oui.
Paris, Briançon de Philippe Besson chez Julliard. On a dit aussi Les méduses n'ont pas d'oreilles, c'est chez Grasset, signé Adèle Rosenfeld. Et puis Alexis Génie, J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, dans la géniale maison d'édition Paulsen, maison d'édition d'aventure. Merci beaucoup Sandrine Babu.
Merci Nicolas, au revoir.
Retour à Europe 1, toujours avec Frédéric Becbédé, qui était dans la librairie avec Un barrage contre l'Atlantique chez Grasset. C'est quoi votre rapport aux libraires ? Est-ce que vous allez toujours, comme au premier roman, j'imagine, vérifier parfois dans une librairie en baissant la tête et en mettant votre masque un peu plus
avec un
sur les yeux
et des lunettes de
pour
soleil
voir si votre livre est bien exposé ?
Et une cagoule. Non, ça je ne fais plus.
Vous avez fait ?
J'ai, bien sûr, comme tous les auteurs. Et puis après, on engueule son éditeur quand on n'y est pas. Mais non, ça, j'ai arrêté. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut faire confiance à des libraires pour écouter leurs conseils. J'aime beaucoup, par exemple, Bookstore à Biarritz. Ou, j'aime beaucoup Shakespeare and Company à Paris.
Que des librairies avec des noms anglo-saxons, quoi.
Oui, c'est vrai, mais c'est une des plus belles librairies au monde. Oui. Je vais bientôt signer chez Galignani, rue de Rivoli, qui est une librairie magnifique. mais chez Mola à Bordeaux. Enfin, j'ai beaucoup
ils vous
d'endroits
ont soutenu
comme ça.
Dès le départ, les libraires 99
pas
francs,
trop, pas trop, non. J'avais trop une tête à claque, je pense.
Ah,
il faut dire une chose, c'est que quand on demande à tous les libraires dans Livre Hebdo chaque année d'élire le livre de l'année, ils ont très mauvais goût. Je veux dire que pris globalement, bah oui, c'est ça qui est amusant. Je suis un peu le provocateur, donc moi, je.
Faut pas vous étonner.
J'imagine que tous vos écrivains, tous vos invités disent que les libraires sont des gens merveilleux. Ils sont individuellement, subjectivement, il faut choisir ceux qui nous ressemblent.
Bien sûr.
Mais quand on les prend collectivement, ils ont souvent des goûts de chiottes. Bon, c'est pas grave. Ils vont vers le consensus souvent un petit peu, je trouve.
Uh-huh.
Ils font des choix un peu mous. Mais individuellement, les libraires que j'aime savent qu'ils ne sont pas
comme
ce que
je viens
de dire.
C'est comme des amis en fait, on les choisit.
C'est
aussi.
Comme des amis et il faut avoir surtout un lien de confiance. Mmh. Et là, on peut, sachant qu'on a rencontré un libraire aussi fou que soi-même, on peut alors là écouter ses conseils, oui.
Et il faut aussi écouter les conseils d'Héloïse Goy pour toute la littérature jeunesse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un roman d'une écrivaine qu'on connaît, Claire Castillon, mais destiné aux jeunes.
Eh oui, c'est pas un livre très joyeux dont je vous parle aujourd'hui, Nicolas, mais c'est un livre important, un livre susceptible de faire du bien ou du moins d'éveiller les consciences des jeunes lecteurs. Ça s'appelle Les Longueurs, vous l'avez dit, c'est signé Claire Castillon. Claire Castillon qu'on connaît pour ses romans destinés aux adultes, comme Insectes ou Marche Blanche. Et cette fois, elle s'empare d'un sujet avec Les Longueurs, celui de l'emprise d'un adulte sur un enfant et même des mécanismes, des rouages de la pédophilie.
Waouh, et comment on parle de ça aux jeunes ?
Eh bien, c'est justement là que Claire Castillon a beaucoup de talent. En fait, pour nous parler de ce sujet très grave, elle décide de se glisser dans la peau d'une petite fille pour raconter l'histoire à son échelle, à travers ses propres yeux. Les mots sont donc plutôt édulcorés, les agressions suggérées, parce qu'elles sont en fait incomprises par l'enfant. On suit donc l'histoire d'Alice, une petite fille de 8 ans. Alice, elle est très proche de sa mère depuis que son père a quitté la maison. Et cette petite fille, elle est aussi très proche de Monjo. Monjo, c'est un ami de sa maman qui est aussi professeur d'escalade pour les enfants. Et très vite, on comprend qu'il y a un problème. Au début, il semble vouloir prendre la place de son père en lui offrant des jouets, des bonbons, des vêtements. Et puis Monjo commence à faire ce qu'il appelle des gousgouzes à la petite fille, c'est-à-dire des petits guilis sur le dos ou sur les bras. Il va bien sûr aller plus loin. Et c'est dans ces moments-là qu'il explique à Alice qu'elle est très spéciale à ses yeux et qu'il aimerait se marier un jour avec elle. Mais bien sûr, c'est un secret, il ne faut le dire à personne. De son côté, Alice voue une admiration sans borne à Monjo. Elle a totalement confiance en lui, elle se sent valorisée, presque élue par cet homme que tout le monde adore. Elle pense même être amoureuse. Le mécanisme de manipulation est donc bien en place. J'ai demandé à Claire Castillon pourquoi elle avait souhaité parler de ce sujet aux jeunes.
L'emprise la plus violente, la plus misérable, la plus cruelle, c'est celle qui agit comme ça sur l'enfant. Et la pédophilie en fait en est une sorte d'illustration majeure. Donc j'ai eu envie d'être dans la peau de l'enfant qui se retrouve face à l'enfer en fait et de raconter le quotidien face au monstre.
Parallèlement dans le roman, on suit aussi la vie d'Alice 7 ans plus tard. Et à 15 ans, la jeune fille est toujours dans les griffes de ce prédateur. Et si Alice est toujours attachée à cet homme, les choses commencent à s'éclairer dans son esprit. En fait, Monjo décide de se mettre en couple avec sa mère. Et c'est là qu'Alice comprend que le comportement de cet homme est étrange. Et ce qui lui est arrivé n'est pas normal. C'est aussi à cette période qu'elle a envie d'en parler à son entourage, mais elle n'y arrive pas. Parce que malgré sa colère, elle est tiraillée. Parce qu'elle a peur de blesser Monjo, elle a peur de blesser sa mère. Voilà, je vous laisse découvrir la suite par vous-même. J'ai trouvé que c'était un livre audacieux parce que le sujet n'est pas facile et c'est un livre délicat malgré tout, c'est un livre poignant. Et à l'heure où malheureusement 165 000 enfants sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles chaque année en France, eh bien ce livre il est important parce qu'il peut peut-être aider certaines jeunes victimes qui n'osent pas parler, aider aussi des parents à percevoir des signaux alarmants chez leurs enfants. C'est en tout cas ce qu'a pu constater Claire Castillon.
Quand j'ai écrit Les Longueurs, je ne me suis pas dit que c'était un livre qui allait faire du bien. C'est en constatant la réception que je me rends compte sans doute de l'importance du compagnon livre. J'imagine qu'en effet, une lecture peut inciter à regarder sa propre situation d'un peu plus loin pour que les enfants sachent qu'aujourd'hui, en effet, on peut parler à l'école, on peut parler à un prof. Si on ne sait pas parler à ses parents, il y a toujours quelqu'un pour aujourd'hui faire en sorte que ça cesse et que ça cesse immédiatement.
Les Longueurs donc de Claire Castillon, c'est chez Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Héloïse.
Merci Nicolas.
Et vous Frédéric Becbédé, est-ce que vous vous souvenez du premier roman que vous avez lu ?
Oh bah ça doit être, mais j'imagine que tout le monde doit répondre Le Petit Prince.
Il y a eu, mais pas beaucoup. C'est beaucoup La Comtesse de Ségur.
J'ai un souvenir du Petit Prince parce que j'avais le disque dit par Gérard Philippe en vinyle et on l'écoutait avec mon frère dans notre chambre et en suivant le texte sur le livre. Et donc vraiment, je le connais presque par cœur et c'est pas du tout un livre pour enfants. C'est un livre universel, c'est un conte pour adultes. Oui, c'est très étrange d'ailleurs, ce petit garçon qui traîne dans le désert tout seul avec un aviateur. Hein, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas si on publierait un livre pareil.
Un barrage contre l'Atlantique, c'est votre nouveau livre chez Grasset. Merci beaucoup Frédéric Becbédé.
Merci infiniment.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuche pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.